Radiola présente La main à la pâte, le projet alimentaire territorial raconté par celles et ceux qui l'ont vécu sur le territoire de Dieulefit-Bourdeaux. Rencontre avec Emma Duval, chargée de mission foncier agricole
au sein de la communauté de communes Dieulefit-Bourdeaux. Donc moi j'ai fait une formation dans le développement rural et c'est vrai qu'au cours de différentes études qu'on a pu faire, des projets sur différents territoires en Ariège ou en Haute-Loire, moi j'ai eu l'impression que le foncier agricole c'était vraiment l'enjeu central de fond, c'est la porte d'entrée pour travailler sur l'installation de transmission.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre métier ?
J'anime un groupe d'élus qui veut s'investir sur l'installation et la transmission en agriculture. Donc c'est un comité local installation transmission pour parler des porteurs de projets qui voudraient s'installer sur le territoire et de l'accompagnement aux agriculteurs donc de plus de 50 ans sur leur transmission. On a choisi aussi de s'intéresser aux friches agricoles pour voir si elles pouvaient être mises en valeur. Et donc le sujet de fil en aiguille avec ce travail sur les friches, c'était aussi de se dire que les propriétaires privés, ceux qui détenaient le foncier agricole et qui ne sont pas agriculteurs, eux, ils avaient aussi un rôle à jouer dans cette préservation du foncier agricole, au soutien à l'alimentation, l'agriculture locale. Donc on fait aussi un travail de sensibilisation auprès de ce public-là.
Qu'est-ce que c'est qu'un diagnostic foncier agricole ?
C'est deux choses. C'est déjà une cartographie du territoire, c'est-à-dire qu'on a les différentes parcelles qui sont cultivées avec des indications. Donc, quel agriculteur cultive quelle parcelle, quelle est leur production, quel âge ils ont. Et l'enjeu dans ce diagnostic de référencer, de recenser les friches. Puis après, c'est de faire une synthèse un peu de toutes ces données pour avoir des grands chiffres, des grandes idées sur qu'est-ce qu'est l'agriculture sur le territoire actuellement et de faire ce travail en fait régulièrement. Donc c'était pour avoir cette image-là en 2023 et la comparer aussi avec celle de 2012.
Alors justement, qu'est-ce qu'il a permis d'identifier ? Qu'est-ce qu'il a mis à jour comme évolution de façon générale sur un peu toutes les thématiques qu'il recouvre ?
Donc on a pu voir qu'il y avait quand même beaucoup d'installations sur ce territoire, mais malgré tout, ça c'est la dynamique on va dire nationale qui se répercute aussi à l'échelon local, c'est qu'il y a un nombre important de cessions et donc d'agriculteurs qui partent à la retraite sans être remplacés. Souvent, ça part à l'agrandissement, en fait. Donc, c'est des agriculteurs voisins qui vont récupérer les terres. Et donc, ça fait que le nombre d'agriculteurs, sur 10 ans, il a un petit peu diminué. Comparé à d'autres territoires, on n'est pas les plus à plaindre, mais c'est quand même à noter. Et c'est surtout qu'on a 50% des agriculteurs qui ont plus de 50 ans. Il y a toute cette vague à anticiper de départ à la retraite. Donc s'assurer qu'il y ait une transmission soit familiale, une transmission hors cadre familial, accompagner si besoin et si volonté de l'agriculteur. Voilà ce que c'est un peu sur le plan donc, agricole et sur le plan des friches. C'était une petite vingtaine de zones identifiées. Et donc là, on travaille avec les élus à mieux caractériser ces zones et à prendre contact avec les propriétaires pour savoir s'ils seraient intéressés pour revaloriser leur terrain, les remettre en culture. C'est vrai que dans un premier temps, c'est d'abord d'identifier ces parcelles et c'est surtout de faire le lien avec les agriculteurs, qui auraient besoin de ce foncier pour vraiment pérenniser leur exploitation, des potentiels porteurs de projets qui ont envie de s'installer et donc voir si le foncier libéré, le foncier remis en valeur peut être disponible pour une installation. Des fois, les friches, elles sont enfrichées pour une raison. Et donc là, ça va être tout notre travail de définir si oui ou non c'est possible de les remettre en culture parce que ça a un coût aussi de défrichage. Mmh. On sait que faire un lien avec un agriculteur ou une agricultrice, c'est vraiment, la meilleure façon pour que le propriétaire soit convaincu de remettre en culture.
Est-ce que nous avons de quoi faire en termes de disponibilité des sols pour accueillir de nouveaux agriculteurs sur la communauté de communes ?
C'est une soixantaine d'hectares de friches qui pourraient être mobilisées. Mais voilà, encore une fois, il faut aller sur le terrain, il faut aller voir le contexte, l'accès à l'eau, l'accès pour les engins agricoles. Et puis après, il y a tout ce foncier qui va être libéré par les départs à la retraite, en fait. Donc c'est quand même, oui, il y a de la place pour s'installer. Mais voilà, il y a du travail, il y a des enjeux financiers aussi, de foncier qui prend beaucoup de valeur. On se retrouve en fait sur le territoire avec quand même de la spéculation foncière. Et donc voilà, ça c'est tout le rôle de la SAFER d'avoir un prix juste des terres agricoles. Et ça c'est vrai que sur le territoire on subit quand même pas mal de spéculation, et ce qui fait que ça fait monter les prix. Et c'est ça qui rend en fait finalement des fois difficile l'installation d'agriculteurs.
Quels sont les principaux freins à la transmission des exploitations agricoles sur le territoire actuellement ?
D'une part, c'est le prix, pour des fermes d'élevage en tout cas, qui est souvent dissuasif pour des porteurs de projets qui aujourd'hui ont un profil hors cadre familial, donc non issu du milieu agricole, qui n'ont pas forcément 300 000 euros à mettre sur la table de suite. D'un point de vue historique, en fait, les fermes, on leur a conseillé de continuer à s'agrandir, à investir, parce qu'ils allaient pouvoir assurer avec la vente de leur ferme leur retraite. Sauf que, voilà, en face, s'il n'y a pas les porteurs de projets qui ont les économies pour, eh ben c'est difficile. Donc il y a déjà d'un point de vue financier. On se rend compte aujourd'hui que beaucoup des porteurs de projets, c'est des projets en production végétale, plus petites surfaces parfois, qui ne sont pas forcément en adéquation avec des fermes d'élevage. Donc il y a aussi tout cet enjeu de restructuration, de comment est-ce qu'on fait pour faire passer une ferme en bovin-lait, en chèvre-lait par exemple. Voilà, c'est les deux majeurs que je vois, mais après il y a tout ce côté aussi social, c'est tout ce lien très fort que le cédant ou la cédante avec sa ferme, son lieu de vie souvent. Et puis c'est ses attaches, voilà, au territoire. Et c'est vrai que c'est tout un parcours, ça se fait pas en un claquement de doigts, et il y a vraiment un parcours pour trouver la bonne personne pour reprendre, mais on arrive à passer au-delà. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de temps.
Ce serait quoi la recette d'une transmission réussie?
Il faut du temps, donc il faut de la préparation en amont de la personne, de l'agriculteur, de l'agricultrice qui va céder. On conseille 10 ans en amont, hein, de réfléchir déjà, voilà, de se poser les premières questions. Rien que, est-ce que mon outil est transmissible? Oui, comment est-ce que je vais le rendre transmissible? Il y a le facteur de la rencontre entre les deux personnes pour apprendre à se connaître, apprendre à se faire confiance et apprendre à travailler ensemble pour transmettre, en fait.
Vous avez été accompagnée pour réaliser ce diagnostic avec tout un tas d'acteurs.
La Chambre d'agriculture, la SAFER, Terre de Liens, l'ADAR.
Est-ce que c'est facile? Est-ce que de faire travailler toutes ces personnes ensemble, est-ce que c'est déjà une intelligence collective qui existait ou il fallait la créer en plus?
On a créé un forum pour l'installation et la transmission. C'était à destination des cédants, des futurs cédants et des porteurs de projets. Là, on a eu une chance d'avoir tous les partenaires qui étaient présents et qui ont présenté leur mission, leur structure. Donc ça, c'était une belle réussite, c'était vraiment chouette. Mais là, pour 2024, on s'oriente plutôt vers des actions avec une soirée à destination des propriétaires privés co-animée par Terre de Liens et la CCDB, un accueil de porteurs de projet par l'ADR. Voilà, on va faire intervenir la chambre plus tard, qui va en fait délocaliser une action qu'elle mène plutôt sur le territoire de Montélimar, sur le territoire de Dieulfi.
Pourquoi ou en quoi le PAT est-il un plus pour accompagner tous ces changements? Qu'est-ce que ça permet?
Pour moi, le PAT, moi je travaille que sur une partie du PAT, mais c'est vraiment de pouvoir faire de la synergie entre toutes ces thématiques et surtout tous les acteurs qui gravitent autour. C'est des élus qui soutiennent cette démarche, qui ont envie vraiment que de la voir s'épanouir sur le territoire, de vraiment pouvoir aider au maximum en fait, tant les agriculteurs que les citoyens qui voudraient consommer mieux, consommer plus local, que les restaurateurs, les acteurs économiques. Pour moi, c'est vraiment ça que permet une démarche PAT.
C'était La main à la pâte, le projet alimentaire territorial raconté par celles et ceux qui l'ont vécu sur le territoire de Dieulefit-Bourdeaux. Prise de son et réalisation, Pauline Lemaire des Marais. Musique, le morceau Salento est tiré de l'album Plaisir d'amour, chanson sans parole, composé par René Aubry. Une production réalisée dans le cadre du projet alimentaire territorial porté par la communauté de communes Dieulefit-Bourdeaux et soutenue par le Programme national pour l'alimentation, le plan France Relance et le Fonds européen agricole pour le développement rural. Une création Radiolab.